Que pensez-vous de la citation « Les filles ont de meilleures capacités littéraires que scientifiques » ?
Ben, c'est pas forcément vrai. Il y a des tas de filles qui ont des capacités scientifiques. Ça, c'est le moule dans lequel on veut les mettre. Mais non, il n'y a pas de raison que les filles soient plus littéraires que scientifiques. Et l'inverse, pareil.
Je pense que c'est faux, même si pour le coup, pour moi, c'est vrai.
Bah plutôt littéraire, parce qu'une fille c'est plus romantique que la science en fait. Du coup les garçons ils sont plus niveau science, parce que du coup c'est plus ils pensent plus à certaines choses, et que les filles du coup elles sont plus littéraires, elles sont plus dans le romantisme et tout ça.
J'en pense que ça dépend de chacun.
C'est vrai pour ma part. Je suis plus fort en maths qu'en français. Mais après, c'est pas forcément général.
Ah ! C'est pas vrai.
Je pense que non, parce que tout le monde a les mêmes capacités de base. Après, ça dépend des individus, chacun par rapport à eux-mêmes. Mais je pense pas que ce soit lié au genre.
Oui, alors, c'est des préjugés, mais moi, vu mon métier... Oui, voilà. Vu mon métier, je suis prof d'espagnol, je vais pas dire le contraire.
Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission de radio sur le thème « Femmes et maths ». Pourquoi ce thème ? Eh bien, vous avez votre réponse avec le micro-trottoir que vous venez d'entendre. Nous avons posé des questions aux personnes de notre lycée sur les femmes, dans les sciences et dans les maths. Et certaines de ces réponses sont intéressantes.
Pour toi, c'est quoi le féminin de ingénieur ?
Une ingénieure ?
Ingénieuse, mais... C'est... Ouais, ingénieuse.
Une ingénieure. Non, c'est pas ça.
Oh, de féminin de ingénieur. Soit je pense qu'on met un E à la fin, mais parce qu'ingénieuse, ça veut pas dire grand-chose. Je suis ingénieur avec un E. Bonne question. Je suis ingénieuse, ça fait un peu... Non, ça fonctionne pas.
Une ingénieure, non ?
Ingénieuse ? En tout cas, ça devrait être obligatoire de dire comme ça.
Ingénieur ?
La majorité des gens ont des préjugés sur les femmes dans la science. C'est donc pour cela que le thème « Femmes et maths » a été choisi pour l'année scolaire 2021-2022.
Antoine, tu viens de parler de préjugés. C'est la même chose qu'un stéréotype ?
Je te propose d'écouter la réponse de Cindy Châtaignier, psychologue sociale spécialisée dans les stéréotypes de genre, notamment dans les sciences, que nous avons interviewée en novembre.
Alors, c'est une bonne question, parce que dans le langage courant, stéréotype et préjugé, on va avoir tendance effectivement à penser que c'est la même chose, alors que nous, en psychosocial, on le différencie. Le stéréotype, on va considérer que c'est vraiment juste l'étiquetage, en fait, d'un comportement, donc ça va être de dire par exemple, les blondes sont stupides, par exemple, voilà, si on reprend le stéréotype d'infériorité intellectuelle des blondes. Le préjugé, on va être dans l'aspect affectif, il va y avoir une connotation affective, en fait, dans le stéréotype, donc on va être dans la connotation affective, dans le « j'aime pas ». Donc on va avoir l'étiquetage, les blondes sont stupides, ça c'est le stéréotype, et donc la conséquence, ça va être de dire, soit j'aime ou j'aime pas les gens stupides, donc je vais décider d'aimer ou pas en fait les blondes. Donc là on va être dans le préjugé. Donc en fait le préjugé il va presque avoir un caractère un petit peu plus individuel en fait, ça va être à l'échelle de l'individu qui va décider s'il aime ou pas en fait, cette caractéristique qui est décrite par le stéréotype. Voilà. Ce qui est important aussi de comprendre, c'est qu'avec ces deux termes-là, on rentre dans un continuum. Le stéréotype, c'est le tout début du continuum, qui est absolument inconscient. C'est-à-dire que tout le monde a des stéréotypes, parce que c'est construit et parce qu'on les acquiert très rapidement. À partir du préjugé, on va être un petit peu plus déjà dans l'aspect conscientisé. Et la fin du continuum, c'est la discrimination. C'est vraiment le comportement, la mise en acte, en fait, du fait d'aimer ou de ne pas aimer la personne. Donc après, on va faire le distinguo entre la discrimination positive ou négative. Mais voilà, c'est important, en fait, de faire quand même la distinction entre ces termes, parce qu'il y a une part de conscience de ces concepts-là qui n'est pas la même. Stéréotype, c'est tout à fait inconscient. Discrimination, on est dans une conscience totale de ce qu'on fait.
Ainsi, les stéréotypes sont à l'origine du problème de sexisme dans les sciences. Mais ce sont néanmoins les préjugés qui peuvent choquer le plus. Écoutez donc. Que pensez-vous de la citation suivante ? Pourquoi une jolie fille comme toi souhaite être scientifique ?
Parce qu'il faut être moche.
Je vois pas beaucoup le rapport entre une jolie fille et un scientifique, mais... je vois pas vraiment la logique là, dans cette citation. Ouais.
Bah, je pense que le terme jolie fille ne devrait pas avoir lieu dans cette phrase, simplement, parce que ça ne devrait pas avoir d'impact en fait sur le métier envisagé de la personne.
Bah, je trouve que c'est complètement comme citation, parce qu'une fille très jolie peut être mathématicienne, c'est son choix. Par exemple, il y a quand même pas mal de filles qui font SP maths, je crois, donc chaque personne est libre de faire son choix, et encore plus les filles, on doit pouvoir faire notre choix, et si elle veut être SP maths, si elle est jolie, qu'elle fasse SP maths, c'est sa vie, après tout.
Que j'espère qu'on la dira jamais à ma fille, je trouve ça absolument horrible, et je serais très en colère.
Mais le plus grave reste que ces stéréotypes et préjugés provoquent des différenciations au sein des classes. Il se crée alors une sorte de déterminisme social qui pousse les femmes à se détourner de la filière scientifique sans même l'envisager. Regardez ce qu'en pensent nos témoins.
Selon vous, y a-t-il plus de filles ou de garçons dans une classe de mathématiques ?
Plus de gars.
Et pourquoi ? Selon vous ?
Je sais pas quoi répondre là, je sais pas moi.
Plus de garçons, c'est ce qui les intéresse le plus.
Je dirais plus de garçons quand même, parce qu'on reste à l'époque où les filles c'était littéraire, les garçons ça va être scientifique, alors qu'en soi ça devrait être équivalent. Mais faut voir.
Je pense qu'il y a plus de garçons.
Pourquoi ?
Je sais pas. Souvent les filles se dirigent vers la filière littéraire, et je pense aussi par rapport aux garçons, où les filles sont vachement mises à l'écart par rapport aux matières mathématiques.
Est-ce qu'il y a plus de filles ou de garçons dans une classe de mathématiques, et pourquoi ?
Pour moi, et je le vois, il y a plus de garçons dans une classe de mathématiques, mais c'est juste parce que c'est un peu stéréotypé, et puis les filles sont plus littéraires, mais après, c'est pas... Enfin, moi, je veux prendre spécialité maths, et pourtant, je suis une fille.
Il y a plus de filles parce que c'est la nouvelle, pas la nouvelle mode, mais il y a de plus en plus de filles qui veulent faire mathématicienne, et que je trouve ça très bien, moi.
Il y a donc plus de garçons que de filles dans les classes de mathématiques au lycée. C'est un fait.
Voyons maintenant ce que nous en dit Cindy Châtaignier.
Et au club de maths, on a observé les effectifs des classes de première et de terminale du lycée, et on s'est aperçu que 58% des élèves sont des filles, alors qu'en spécialité maths, elles ne représentent que 33%. Contre 91% en HLP. Que pouvez-vous nous en dire, vous qui avez un point de vue plus général ?
Eh bien que, effectivement, ce que vous observez dans votre lycée, c'est ce qu'on observe partout en France, en fait. C'est généralisé à l'échelle nationale. On va avoir des orientations spécifiques pour les filles et pour les garçons, et que clairement, les filles vont assez peu, ou en tout cas pas majoritairement, dans les matières scientifiques. Elles s'orientent davantage vers ce qui est plus littéraire, art, voilà, ce genre de choses, alors que les garçons vont plus dans tout ce qui est maths, physique, chimie, voilà. Et même quand on voit dans les spécialités, les filles, elles vont en S, hein, dans ce qu'on appelait avant les séries S, on les retrouve plus dans tout ce qui est sciences du vivant, en fait, donc dans SVT. Voilà.
Et après le bac, est-ce que les choses changent ? Est-ce que la parité s'améliore ?
Alors malheureusement pas du tout.
puisque les différences d'orientation que l'on observe au niveau du bac, bah, on va observer les mêmes dans les études supérieures, et donc ça va donner des secteurs professionnels qui vont être extrêmement genrés, en fait, et donc on va retrouver finalement les hommes et les femmes dans des secteurs professionnels voilà, extrêmement différents. Donc les hommes, on va les retrouver plutôt dans tout ce qui est BTP, transport, tout ce qui est ingénieur, ce genre de choses. Et les femmes, elles vont avoir déjà beaucoup plus le statut d'employé que les hommes. Et puis, on va les retrouver beaucoup, voilà, enseignantes, assistantes maternelles, enfin, dans plein de métiers, en fait, dans lesquels on ne va pas du tout retrouver les hommes.
Et donc, en fait, ça fait un peu un cercle vicieux, puisque ça renforce les stéréotypes, non ?
Eh ben, tout à fait. Et c'est toute la force, en fait, en quelque sorte, des stéréotypes, c'est qu'ils nous font croire qu'ils ont toute véracité, puisque c'est bien ce qu'on observe dans nos sociétés. Donc c'est justement là qu'il faut vraiment faire prendre conscience aux gens que ce qu'ils observent a pour origine la construction sociale et que ce n'est pas quelque chose d'inné, en fait, chez les individus.
Comme l'a dit Cynthie Châtaignier, les stéréotypes nous enferment dans un cercle vicieux. Mais alors, on peut se demander, comment a-t-il commencé ? D'où viennent ces stéréotypes ?
Et du coup, selon vous, ils proviennent d'où ces types de stéréotypes chez les individus ?
Alors, ils viennent surtout... Alors, on pourrait pour le coup, hein, c'est une question qui est complexe, parce que l'origine des stéréotypes est multifactoriel. Donc on pourrait en parler pendant des heures. Il y a des facteurs qui viennent plus du mécanisme du fonctionnement de l'individu, donc à partir d'un mécanisme qui s'appelle la catégorisation. Voilà. Et après, on a aussi des facteurs qui sont plus inter-individuels, c'est-à-dire comment l'individu va avoir... s'inscrire dans ses relations avec les autres. Donc ce qu'on va interroger dans ce cadre-là, c'est les médias, par exemple, qui vont largement venir entretenir et transmettre les stéréotypes, tout ce qui est marketing, en fait. Tout ça, ça peut largement venir... voilà. Et puis il y a bien sûr... tout ce qui est éducation parentale, éducation scolaire, où bah, du coup, tous les individus qui participent à la société vont finalement devenir eux-mêmes des vecteurs de transmission des stéréotypes s'ils ne prennent pas conscience de leur comportement. Donc on a tous un rôle à jouer, en fait, dans cette déconstruction.
Et du coup, que pourrions-nous faire pour améliorer les choses ? Et y a-t-il des personnes qui cherchent à changer les choses aujourd'hui ?
Alors, y a beaucoup de travaux de recherche, oui, sur la question. On a de plus en plus, voilà, de groupes, ne serait-ce que, alors, sur les stéréotypes filles-garçons, y a plein de groupes féministes, en fait, qui essaient, effectivement, de faire changer les choses. Après, si nous-mêmes, on appartient à aucun groupe, eh ben, notre travail individuel, en fait, dans la société, ça peut être tout simplement de déclencher le processus de questionnement, en fait, chez les personnes qui nous entourent, parce que des situations où les stéréotypes prennent vie, on en rencontre quotidiennement, ça peut être, voilà, aussi l'occasion de pouvoir s'interroger avec les personnes qui nous entourent et de les amener à se poser eux-mêmes des questions, en fait, pour participer à cette déconstruction.
Et est-ce que à l'inverse, il y a des personnes qui ont un intérêt à renforcer les stéréotypes ?
C'est une question extrêmement compliquée. J'espère que non. Je ne sais pas en réalité, mais j'espère que non. J'espère que tout le monde a intérêt à ce que les stéréotypes puissent être déconstruits. Enfin, mais je trouve votre question difficile à répondre.
Et du coup, pourquoi est-il important de passer ce message aux jeunes générations d'aujourd'hui ?
Parce que les jeunes générations, ce sont eux qui vont constituer notre futur, en fait. Si on souhaite que les stéréotypes soient déconstruits, il faut que les jeunes générations
comprennent en fait pourquoi c'est important de les déconstruire, savoir déjà identifier les situations dans lesquelles les stéréotypes prennent vie et pour parvenir en fait à les dépasser. Voilà. Donc on sait que c'est extrêmement compliqué en fait de déconstruire des stéréotypes. Donc c'est permettre en fait aux jeunes générations de comprendre ces problématiques-là pour que eux-mêmes ils essaient en fait dans les situations dans lesquelles les stéréotypes pourraient s'appliquer, essayer de les dépasser, de les questionner pour pouvoir les dépasser, et que eux-mêmes quand ces jeunes deviendront parents, qu'ils puissent éduquer leurs enfants dans cette même logique. Et donc ça va faire que de génération en génération, j'ose espérer qu'on va avoir une société qui va être plus ouverte et moins stéréotypée. Mais ce qui est évident, c'est que ça va pas se faire du jour au lendemain et qu'il va falloir attendre très probablement des générations avant qu'on puisse atteindre quelque chose de plus égalitaire en fait.
Bien, merci Cindy d'avoir répondu à nos questions. Nous sommes ravis de vous avoir rencontrés. Nous espérons que votre visite aura un impact sur notre établissement. Merci à tous de nous avoir écoutés.
Merci.
Malgré les importants stéréotypes de genre que nous avons pu découvrir, il existe, comme à toute règle, des exceptions. Et certaines femmes sont parvenues à surmonter ces barrières sociales pour s'épanouir dans leur métier. Notre objectif aujourd'hui est de vous en présenter certaines, pour vous convaincre qu'on peut être une femme et réussir dans le milieu mathématique ou scientifique, et ainsi rendre hommage à leurs travaux. Commençons par Mélissa Rossi, cryptologue à l'ANSSI, que nous avons eu le plaisir d'accueillir au lycée et d'interviewer.
Bonjour Mélissa Rossi.
Bonjour.
Donc on va commencer par une question de Laura.
À quoi sert la cryptologie à l'heure actuelle et quels sont les enjeux futurs ?
Alors la cryptologie, ça veut dire la recherche en décodage des codes secrets. Donc, en fait, il y en a partout autour de nous. Ça sert à sécuriser les communications, les téléphones portables, les cartes bancaires, tout ce qui manipule des données qui sont personnelles ou confidentielles. Et donc, la cryptologie sert à éviter que toutes les personnes non autorisées puissent accéder à ce genre de données. Les enjeux futurs de la cryptologie. Donc on a le problème des ordinateurs quantiques, qui sont des ordinateurs qui sont fondés sur des principes physiques différents des ordinateurs classiques. Et ces ordinateurs quantiques pourraient potentiellement attaquer la cryptologie actuelle. Donc attaquer toutes nos données personnelles, confidentielles, dans les téléphones portables, les cartes bancaires. Et donc les enjeux seraient de se sécuriser, de modifier nos algorithmes pour arriver à se sécuriser contre ces ordinateurs quantiques. Pour l'instant, ces ordinateurs quantiques ne sont pas une menace parce qu'ils sont vraiment à l'état de prototype. Ce sont des petits ordinateurs qui manipulent des petits nombres. Mais si jamais ils devenaient à plus grande échelle des grosses machines qui pourraient faire des gros calculs, dans ce cas-là, oui, ça deviendrait une menace. Et donc, il faut se prémunir de ce type d'attaquants et modifier la cryptologie qui est actuellement utilisée.
Merci. On enchaîne avec une question de Laurette.
Y a-t-il des mathématiques dans votre métier ?
Oui, beaucoup. En fait, les mathématiques sont partie intégrante de la cryptologie. La cryptologie, c'est à l'interface entre les mathématiques et l'informatique. Ça peut être à la fois de l'informatique théorique qui peut être vue un petit peu comme des mathématiques, puisqu'on a des preuves de sécurité, de la logique. En termes de mathématiques, on a de l'arithmétique, de la géométrie, de l'analyse de complexité, toutes sortes de domaines des mathématiques que vous ne connaissez pas actuellement parce que vous ne les avez pas étudiés au lycée, mais c'est des choses que si jamais vous continuez dans le domaine des mathématiques, vous étudierez et qui sont vraiment très intéressants.
On continue avec une question de Jacques.
Travaillez-vous seul ou en équipe ?
On travaille beaucoup en équipe. Le domaine de la crypto, on essaye de toujours unir nos forces. Donc on est très souvent à faire des projets collaboratifs à plusieurs, essayer de casser des algorithmes ensemble, d'essayer de voir de bénéficier d'équipes de différents points de vue. Mais il y a certains moments où c'est vrai que j'aime bien quand même prendre le temps toute seule de regarder, d'être sûre d'avoir bien compris tout ce qui s'est dit avant et de un petit peu avec moi-même faire le point sur ce que j'ai compris et comment et essayer de trouver des solutions toute seule. Mais c'est vrai que la majorité du temps on est en équipe quand même.
Laurette a une nouvelle question.
Comment avez-vous eu l'idée de devenir cryptologue ?
C'est vrai que la cryptologie, c'est pas forcément très connu. Alors quand on continue dans les maths, quand on fait nos études dans les maths et l'informatique, au bout d'un moment, donc moi c'est une chercheuse cryptologue qui m'a présenté le domaine lors d'une visite d'entreprise. On faisait des visites d'entreprise avec mon école d'ingénieur, et elle a présenté le domaine et ça m'a drôlement plu. Et je me suis dit, en fait, on peut faire des mathématiques, des sujets qui m'intéressaient de base, et faire des choses très utiles qui peuvent permettre de sécuriser les domaines actuels les ordinateurs, les téléphones portables et tout ça, tout ce qui est informatique. Et du coup, je me suis dit, c'est super, on peut faire des maths et en même temps avoir un rôle utile. Et donc, c'est ce qui m'a motivée.
Nous enchaînons avec une question d'Antoine.
Quelles études avez-vous fait pour devenir cryptologue ?
Pour devenir cryptologue, grosso modo, il faut arriver à un master de cryptologie. Et les masters de cryptologie sont dans différents endroits de France. Bon, en dehors de la France, il y en a aussi. Il y en a à Paris, il y en a un à Limoges qui s'appelle le Master Cryptis. Il y en a un à Rennes, il y en a un à Bordeaux. Et pour arriver à ces masters de cryptologie, il y a plusieurs possibilités. On peut faire donc une licence maths info, une licence info, une licence maths. On peut aller dans des classes prépa et écoles d'ingénieurs. On peut aussi faire des écoles d'ingénieurs directement après le bac. Voilà, il y a plusieurs pistes pour arriver au master. Et après, une fois qu'on a le master, comme la cryptologie est un domaine très pointu, il est souvent recommandé de faire une thèse. Donc ensuite, après, on continue en thèse pour la plupart. Mais il y a certaines possibilités pour travailler après le master.
Une question de Joyce.
Qu'est-ce que vous pensez de l'arrivée de l'enseignement informatique au lycée ?
Moi, je trouve que c'est une super super arrivée. Moi, j'aurais vraiment beaucoup aimé avoir ça au lycée quand j'y étais. J'étais très frustrée de ne pas avoir, de ne pas connaître cette matière, surtout que j'avais un petit peu conscience que c'était quand même partout, que c'était un domaine qui est assez pour lequel il y a besoin d'apprendre beaucoup de choses. C'est partout autour de nous. J'avais fait un stage de troisième en informatique. J'avais beaucoup aimé. Après, j'avais essayé de poursuivre sur mon temps libre pour essayer de comprendre. Mais c'était vraiment dommage de pas l'avoir au lycée. Donc, je ne peux que recommander de choisir l'enseignement informatique au lycée.
Une dernière question. Avez-vous été ou êtes-vous confronté aux stéréotypes ?
Alors peut-être pas directement, mais c'est vrai que y a toujours des stéréotypes un peu quotidiens. Le fait que j'ai été la seule fille en master, donc on était un master de 70 personnes et j'étais la seule fille, donc c'est un petit peu pesant. Ça se voyait quand je séchais, puisque d'un cours à l'autre, en fait, on remarque quand la fille n'est pas là. Donc c'était un petit peu un problème. Et puis maintenant, dans mon travail actuel, avant il y avait qu'une seule cryptologue et maintenant on est deux. Et le fait qu'on soit les deux seules filles, on nous confond en fait. Donc ça peut être parfois un peu pesant. Puis c'est vrai que aussi quand on nous voit au premier abord, on est souvent surpris quand je dis que je fais de la cryptologie ou que je suis très technique. Bon voilà, c'est le genre de stéréotype auquel je suis quand même pas mal habituée. Si ça pouvait changer, il suffirait de changer juste les représentations, qu'il y ait plus de filles qui s'intéressent au domaine. En plus, il y a vraiment beaucoup de place en fait, parce qu'il y a beaucoup de demandes dans ce domaine-là. On est en sous-effectif, on a besoin de plus en plus de monde puisque les cyberattaques prennent de plus en plus d'ampleur. Et les personnes qui sont qualifiées en cryptographie, il y en a très peu. Donc, et il y a beaucoup de place. Donc, il n'y aurait même pas de problème de compétition, en fait. Il y a assez de place pour tout le monde. Si les filles sont intéressées, venez essayer de renverser un petit peu les stéréotypes dans le domaine. J'aimerais beaucoup avoir plus de collègues féminines.
Merci beaucoup, Mélissa Rossi, d'avoir répondu à nos questions.
De rien.
Après tout ce sérieux, que diriez-vous d'une petite distraction ? Nous avons en effet eu la chance de recevoir au lycée Roger Mansu, figure de la diffusion de la culture mathématique et scientifique et co-créateur de la chaîne YouTube Le Myriogone. Il a accepté d'affronter Mathieu Drier, professeur au collège et fondateur du Labo Math, dans un quiz confectionné par nos soins. Tout de suite, la première manche.
Pour choisir qui de vous deux va commencer, on va faire un petit jeu. Chacun à votre tour, vous me donnez un nom de mathématicienne célèbre. Le premier qui est à court d'idées a perdu. Bon courage.
Charlotte Angascott.
Sophie Germain.
Maria Kovaleskaya.
Émilie Duchâtelet.
Hypatie.
Olga Lidzinskaya.
Myriam Mirzakhani.
Karen Ulenbeck.
Sylvie Benzoni.
C'est vraiment pas drôle de prendre une de nos collègues directement là. Laure Saint-Raymond.
Mercedes Aech.
J'ai l'impression d'entendre tous les gens qui sont venus à la Châtre récemment. Là, je ne sais pas si elle est déjà venue, mais bon.
Pas encore.
Voilà. Sylvia Serfati.
C'est perdu pour Mathieu. Vous allez à présent vous affronter lors de 3 manches. Le premier de vous deux qui atteint 15 points aura le droit de participer à la colle de la mort pour tenter de remporter le droit de donner un gage à un des membres du Labomat de votre choix. Je laisse la parole à Laurette.
On démarre tout de suite avec la première manche. Vous allez répondre à tour de rôle à des questions. À chaque fois, 4 propositions, une seule est correcte. Une bonne réponse rapporte 1 point. Roger, vous avez remporté le toss, on commence donc avec vous. Combien de fois doit-on plier une feuille de papier pour que son épaisseur soit égale à la distance Terre-Lune ? 39 fois, 40 fois, 41 fois ou 42 fois ?
Oh là là, faut que je calcule les puissances de 2 de tête. C'est horrible comme... on va dire 39.
C'est faux. Alors, une feuille de papier a une épaisseur moyenne de 1 dixième de millimètre. Doublé 42 fois, donc multiplié par 42, enfin 2 puissance 42, l'épaisseur obtenue dépasse 439 000 km. Or, la distance Terre-Lune est égale à 384 400 km.
La question numéro 2 pour Mathieu. Quel est le nombre maximal de lignes d'un tableau Excel ? 1 million, 1 048 576, 4 200 000 ou 2 576 432 ?
La deuxième réponse ?
C'est une bonne réponse. Ce nombre est en fait égal à 2 puissance 20. Et figurez-vous que ça nous a pris une heure pour vérifier cette réponse.
Maintenant, passons à la question numéro 3 pour Roger. Parmi ces 4 noms, lequel est celui d'un mathématicien qui faisait partie de la secte des Pythagoriciens ? Deinono, Karandos, Eleftherios ou Aspasie ?
Deinono.
C'est une bonne réponse. Il s'agirait même de la femme de Pythagore, et elle l'aurait convaincu d'interdire à ses disciples masculins de battre leur femme ou de leur être infidèle.
La question numéro 4 pour Mathieu. Vous connaissez le mythe de Sissa, ce sage qui inventa les jeux d'échecs et qui, en récompense, demanda au roi de l'Inde un grain de riz sur la première case de l'échiquier, 2 sur la deuxième, 4 sur la suivante, 8, 16, etc. Si on étalait tous ces grains de riz ainsi obtenus en fine couche sur le sol, quelle surface pourrait-on couvrir ? 11 fois la surface de l'Inde, 42 fois la surface de l'Inde, 65 fois la surface de l'Inde ou 82 fois la surface de l'Inde.
Est-ce que ce sont des grains de riz ronds ou...
Ce sont des grains de riz classiques.
Quelle est la superficie d'un grain de riz ?
La réponse C.
C'est une bonne réponse. Rappelons que la récompense de Sissa représenterait 18 milliards de milliards de grains de riz. Et nous avons compté. Sur un décimètre carré, on peut étaler entre 824 et 874 grains. Une simple règle de 3 permet alors d'affirmer que les 18 milliards de milliards de grains de riz de Sissa occuperaient une surface de 215 millions de kilomètres carrés, soit environ la moitié de la surface de la Terre.
Passons maintenant à la question 5 pour Roger. Vous connaissez l'histoire du petit poucet ? Imaginons qu'il fasse tomber un caillou tous les 20 mètres pour se retrouver et qu'il emmène avec lui 5000 cailloux. Jusqu'où ses parents devraient-ils l'emmener au minimum pour qu'il ne puisse plus le retrouver ? Limoges, dans le 42e département, la Loire, Vichy ou Vierzon ?
Il a emporté combien de grains de riz ?
Il a emporté 5000 cailloux.
5000 cailloux, donc. 5000 cailloux tous les 20 mètres. Donc on est à 100 000 mètres. 100 000 mètres, c'est-à-dire 100 km de la Châtre. Et là, je vais être coincé par ma géographie pour savoir qu'est-ce qui est exactement à 100 km de la Châtre. Tu m'as dit Limoges ?
Limoges, le 42e département, Vichy ou Vierzon?
Faut que je regarde la géographie, là. La distance entre La Châtre et Vierzon, la distance entre La Châtre... Je vais dire Vierzon.
Dommage, c'était bien essayé. Il s'agissait de Limoges. Donc, comme vous l'avez dit, avec un caillou tous les 20 mètres, il sème 50 cailloux par kilomètre. Et donc, il aura épuisé son stock de 5000 cailloux après 100 kilomètres. Distance à laquelle se trouve Limoges à vol d'oiseau.
Passons maintenant à la dernière question de cette manche pour Mathieu. Sachant que l'étoile Polaris a un rayon 5000 fois plus grand que celui de la Terre, que sa circonférence est donc d'environ 200 milliards de kilomètres et qu'elle se trouve environ à 430 années-lumière de nous, si on possédait une corde assez longue pour en faire le tour, combien faudrait-il rallonger cette corde pour qu'elle flotte à 1 mètre au-dessus de l'étoile en faisant le tour? 3 mètres, 6 mètres, 42 mètres ou 5000 mètres?
3 mètres.
C'est faux. Comme chacun sait, la circonférence d'un cercle est égale à son rayon multiplié par 2π, soit environ 6,3. Donc un rayon plus long d'un mètre équivaut à un périmètre rallongé de 6,3 mètres. Et le calcul est valable pour n'importe quelle étoile ou planète, quelle que soit sa taille.
Roger, à la fin de cette manche, vous totalisez avec 1 point et vous, Mathieu, avec 2 points. Mathieu, vous êtes donc en tête.
Quel suspense! La bataille s'annonce serrée. Mais ne vous inquiétez pas, la suite du quiz arrivera plus tard dans l'émission.
Pour l'heure, intéressons-nous à une deuxième mathématicienne contemporaine, Viviane Ponce.
C'est la première invitée du Myriogone. Mais si, vous savez, la chaîne YouTube. Vous ne voyez pas? Je vous fais le topo. Ce projet collaboratif de maths jubilatoire et poétique, comme le décrivent Robin Jamais, Michael Launay et Roger Mansuis sur la chaîne, a vu le jour avec un objectif simple. Vulgariser les mathématiques pour les mettre à la portée de tous. Forcé de revoir sa copie à l'annonce du premier confinement, la chaîne avait proposé une série de lives d'une grande diversité. Mais aujourd'hui, nos trois vulgarisateurs reviennent à leur idée initiale, créer des vidéos où des chercheurs parlent de maths depuis leur labo. Dans cette première vidéo, Viviane Ponce reçoit le Myriogone dans son bureau de l'université de Paris-Saclay pour présenter le problème suivant. Lorsqu'on mélange 10 cartes numérotées de 1 à 10, combien, en moyenne, se trouve à la bonne place? Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, si la première carte est le 8, elle ne compte pas. Mais si la seconde est la carte numéro 2, cela fait 1, et ainsi de suite. Afin de répondre, la chercheuse commence par étudier une version simplifiée du problème avec 3 cartes, puis 4. Pour 5 ou plus, lorsqu'il devient impossible de lister à la main toutes les configurations possibles du paquet après mélange, la chercheuse met à profit la puissance de calcul de son ordinateur. À force de tâtonnements de tests, la mathématicienne établit une conjecture, c'est-à-dire une idée de la solution dont elle esquisse ensuite l'ébauche d'une démonstration au tableau. Viviane Ponce réussit l'exploit de donner, en 15 minutes, un aperçu de la démarche scientifique en maths qui peut, en réalité, s'installer sur plusieurs années. Si vous voulez connaître la solution du problème, je vous laisse la découvrir sur la chaîne du Myriogone sur YouTube.
Merci beaucoup, Laurette, pour cette présentation. Tu m'as donné envie de regarder cette vidéo, mais bon... Je vais me retenir car voici la deuxième manche du quiz entre Roger Mansuis et Mathieu Durier.
Dans cette nouvelle manche, Laurette et Antoine vont tenter de vous faire deviner des titres de films en lien avec les maths. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas une très bonne mémoire et qu'en plus, ils racontent très mal leurs pitchs, qui sont un peu approximatifs. Si vous pensez avoir deviné le titre d'un film, vous buzzez en donnant votre nom. On joue pour 1 point par bonne réponse. Bon courage.
Alors, je vais commencer. Je crois dans ce film qu'il y a des femmes. Oui, 3 femmes, sûrement des amies.
Les figures de l'ombre.
C'est une bonne réponse. Les figures de l'ombre, ce sont 3 femmes afro-américaines qui vont redonner un nouveau souffle à la conquête spatiale par les États-Unis en permettant à l'astronaute John Glenn de réaliser son premier vol dans l'espace quelques mois seulement après Yuri Gagarin.
J'interviens juste pour dire que vous devez dire votre prénom avant de donner la réponse.
Alors, je crois que c'est l'histoire d'un mec, il fait un jeu avec des mots. Des mots mêlés... Non, des mots croisés, c'est ça, des mots croisés, et il mange de la soupe. Après, je crois qu'il se marie, mais il aime pas sa femme, de toute façon. Enfin, ça, elle sait pas.
Ah. Mathieu, Imitation Game?
Est-ce que vous pourriez nous faire un petit résumé du film, du coup?
Eh bien, c'est l'histoire du mathématicien et de son équipe, et de l'informaticien Alan Turing, qui travaille pour... pour décrypter les messages allemands de la machine Enigma durant la Seconde Guerre mondiale.
Oui. Merci.
On passe au troisième pitch. C'est l'histoire d'un mec qui doit avoir un gros sentiment de culpabilité. Son pote n'arrête pas de lui répéter que c'est pas de sa faute, c'est pas de sa faute. Vous savez, il a une réflexion sur la vie, sur le fait de ne pas travailler pour la NSA. Il vit dans une maison délabrée et il fait le ménage alors que c'est un génie. Le film a révélé un jeune acteur.
Avec Mathieu Will Hunting.
Bonne réponse.
Eh bien, dis donc, pouvez-vous faire un petit résumé?
C'est vieux, c'est avec un acteur connu dont j'ai oublié le nom. C'est Matt Damon, non?
Oui, c'est ça.
Et voilà, il résout des équations laissées par un prof dans une fac que aucun de ses élèves arrivait à résoudre. Et voilà, en faisant le ménage, je crois.
On passe maintenant au dernier pitch. C'est le Hobbit qui jouait dans les films, là. Il fait une équipe avec le gars qui vend des baguettes au jeune sorcier Ollivander. Il cherche à comprendre une série de symboles. Des symboles pythagoriciens, je crois. Vous savez, il y a une vieille dame qui meurt. C'est la femme d'un mathématicien qui travaillait avec Turing. Il pense qu'elle a été assassinée par un tueur en série. Tout le film se déroule dans une grande ville universelle.
Mathieu, meurtre à Cambridge. Non, pas meurtre. Enquête à Cambridge.
Non.
C'est à Cambridge, quoi. Ou Oxford. Enfin, c'est avec Elijah Wood.
Alors, c'est la fin du pitch, ça.
Enquête à... ou crime à Oxford.
Oui, c'est ça.
Je l'ai vu il y a 2 semaines, là.
Ah bah, vous pouvez nous faire un petit résumé, comme c'est frais.
Il se peut que je me sois endormi.
Ah, je vais vous aider, ouais, un petit peu.
Vas-y.
Dans ce polar aux faux airs de David Chicon, on suit Elijah Wood et John Hurt dans une enquête sur une série de crimes dont l'auteur laisse derrière lui de mystérieux symboles mathématiques. Roger, à la fin de cette manche, vous êtes à 1 point contre 6 pour Mathieu. Donc Mathieu, vous êtes donc en tête.
Un petit peu méchante ces questions. Pour l'instant, Mathieu est devant, mais tout est encore possible. Intéressons-nous maintenant à une nouvelle mathématicienne.
Tiens, pour changer, que diriez-vous de parler d'une femme qui s'est imposée à une époque encore plus difficile pour cette dernière que la nôtre en inventant un programme pour un ordinateur qui n'existe pas encore. Vous avez deviné ? Je parle bien sûr d'Ada Lovelace.
Elle est née le 10 décembre 1815 à Londres et morte le 27 novembre 1852 à Marylebone. C'est la première informaticienne au monde. Lors de son enfance, début du XVIIIe siècle, Ada Lovelace, de son nom complet, Augusta Ada King, comtesse de Lovelace, est initiée aux mathématiques grâce à sa mère, qui engage des professeurs. À 27 ans, elle se dit que les machines peuvent faire tout ce que l'homme sait faire, à condition que l'homme lui donne le bon programme. Ada veut développer une science poétique, une future intelligence artificielle. Elle imagine le potentiel d'une machine pour manipuler autre chose que les nombres, la musique, les lettres, les symboles. La comtesse Lovelace écrit le premier programme informatique avant même l'invention des ordinateurs. Elle crée son programme lors de la traduction qu'elle a faite d'un article italien sur la machine analytique de Charles Babbage. Elle souhaitait développer cette machine, l'ancêtre de la calculatrice, mais a dû faire face à un problème de taille, l'argent. En effet, le gouvernement britannique ne voulait pas donner le fonds pour une telle machine. On peut donc imaginer qu'avec l'argent nécessaire, l'informatique aurait eu 100 ans d'avance. En souvenir de cette codeuse, un langage de programmation porte son nom, le langage ADA. Il est utilisé dans de nombreux domaines, l'automobile, les trains, et l'aéronautique.
Malheureusement, toutes les mathématiciennes ne s'en sont pas aussi bien sorties qu'Ada et ont été victimes d'un phénomène bien connu aujourd'hui, l'effet Mathilda.
Savez-vous qui a découvert la structure de l'ADN ? La plupart des gens n'en sauront rien, mais les connaisseurs citeront James Watson, Francis Crick ou encore Maurice Wilkins car ils ont reçu un prix Nobel. Et Rosalind Franklin alors ? En 1962, le prix Nobel de médecine est remis à 3 hommes pour leurs travaux sur la structure en double hélice de l'ADN. Or, Rosalind Franklin, une biologiste spécialisée dans l'étude moléculaire, a largement contribué, mais son nom a été complètement effacé de toutes les études et publications autour de cette découverte. Et ce n'est pas un cas isolé. Ce type de discrimination portant sur l'attribution des découvertes scientifiques par les hommes a été théorisé dans les années 80 par Margaret Rositer. Il se nomme l'effet Matilda, nom choisi en hommage à Matilda Joslyn Gage, féministe américaine, l'une des premières femmes à dénoncer l'invisibilisation des femmes dans les sciences. En effet, l'effet Matilda, c'est la minimisation, voire le déni de la contribution des femmes scientifiques à la recherche scientifique au profit des hommes. Les hommes se sont attribués les travaux des femmes. Supprimées de l'histoire, oubliées, reniées ou dénigrées, ces femmes n'ont eu ni l'honneur de se voir décerner un prix, ni celui de figurer sur les manuels scolaires.
Pour illustrer cet effet, nous avons demandé aux personnes du lycée de nous citer des noms de mathématiciens. Écoutez leurs réponses.
Est-ce que tu pourrais me citer trois noms de mathématiciens ?
Newton. Oh, je cherche. Al-Khwarizmir. Là, des noms qu'on a vus. Et en dernier, Euler.
Alors, je pense que pouvoir dire sans me tromper que Pythagore en était un. Thalès. Et Euler.
Alors en premier, je pense à Einstein. Je pense à surtout des physiciens en fait. C'est des noms de théorèmes, on va dire Pythagore. On va dire Fourier.
Einstein. Pascal. Et Newton.
Alors Thalès, Pythagore. Et non, comme ça, j'ai pas un troisième.
Einstein, je crois, c'en était un, non ? Et puis, aucune idée après.
Non, j'ai rien.
Puis nous leur avons demandé des noms de mathématiciennes.
Et est-ce que tu peux me citer trois noms de mathématiciennes ?
Non, comme ça, non, j'ai pas, non.
Mathématicienne, malheureusement non.
Et au niveau des mathématiciennes, je suis désolé, mais je pense pas en avoir en tête.
Oula, non. Il y a pas beaucoup de noms de mathématiciennes, enfin, j'en ai jamais entendu.
Marie Curie, c'est une mathématicienne. Bon, Marie Curie. Sa fille, comment elle s'appelle avec son mari. Même que son mari a pris son nom. Je ne sais plus, non.
J'en connais qu'une, donc Émilie Duchâtelet, et encore, c'est même pas complètement mathématicienne, mais voilà.
T'en connais, toi, des noms de mathématiciennes ?
Vous pouvez voir que l'effet Matilda n'est pas un mythe, et qu'il est même présent dans un lycée de province.
Mais revenons sur une note plus joyeuse, avec la troisième manche de notre quiz.
Cette nouvelle et dernière manche est un questionnaire de rapidité. Si vous pensez avoir la bonne réponse, vous annoncez votre prénom. Chaque réponse rapporte 4 points. Une réponse fausse donne la main à l'adversaire qui pourra alors tenter de répondre. Alors, la première question. Donnez le pourcentage de filles dans la salle.
Roger ?
Oui.
307e.
Oui, c'est une bonne réponse, c'est un pourcentage.
Petite explication rapide du calcul. Dans cette salle, nous sommes 7 au total. Il y a 3 filles et 4 garçons.
J'ai mis un temps à me demander si la personne qui comptait les scores au tableau était dans la salle ou pas.
Deuxième question. Qui est la première mathématicienne à avoir obtenu la médaille Fields ?
Roger. Myriam Mirzakhani.
C'est exact. Il s'agit de Myriam Mirzakhani, mathématicienne iranienne connue pour ses travaux sur les surfaces de Riemann, qui a obtenu la médaille Fields en 2014.
Et la seule, jusqu'à présent.
Roger rattrape. Qui a inventé la pastille Coca-Cola durant la Seconde Guerre mondiale ? Alors, je peux vous donner un indice. Elle a également participé à l'élaboration d'un principe de transmission
toujours utilisé dans les systèmes GPS et Wi-Fi.
Un autre petit indice, c'est une scientifique qui est aussi comédienne.
Essayez, même s'il faut.
Mathieu, c'est Grace Hooper ?
Non. Ce n'est pas ça. Roger, c'est... à vous la parole.
Je cherche le nom et je n'arrive pas à le retrouver. Donc, tant pis.
Eh bien, c'était Eddie Lamar. Il n'y aura donc pas de point pour cette question.
Question suivante. Trouvez et corrigez l'erreur dans cette affirmation. L'équipe de Turing était composée de 4 hommes. John Jeffrey, Peter Twin, Hugh Alexander et Alan Turing.
Tu peux répéter ?
Il faut que vous trouviez et corrigez l'erreur. L'équipe de Turing était composée de 4 hommes, John Jeffrey, Peter Twin, Hugh Alexander et Alan Turing.
Eh bien, il manquait la cryptologue britannique Joan Clark, incarnée par Keira Knightley. Dans Imitation Game.
Vrai ou faux ? Une mathématicienne a été confondue avec le neveu d'un pape.
Vrai. Roger, vrai.
C'est exact. Est-ce que vous seriez capable de nous donner quelques explications ? Alors...
Ça fait que 2 points, du coup.
Non, ça compte pas les points. On pense que dans le tableau L'école d'Athènes, le peintre Raphaël a peint la mathématicienne antique Hypatie au milieu de Platon, Euclide, Aristote et Archimède. Pourtant, on a longtemps cru qu'il s'agissait de François-Marie Ier della Rovere, neveu du pape Jules II.
Pour la question suivante, un petit peu plus de chiffres. Les nombres 76, 5 et 890 625 ont un point commun. Lequel ?
Roger ? Ils figurent tous les trois dans la question.
C'est bien essayé, mais ce n'est pas ça.
Il me semblait que c'était une bonne réponse pour toi.
Nous cherchons une propriété mathématique. Alors, ces nombres sont automorphes. Si on met au carré 76, on obtient 5776, on retrouve 76. De même, 5 au carré est égal à 25. Et 890 625 au carré est égal à un nombre très long qui finit par 890 625.
Elle était dure, celle-là. La question suivante est « Quels célèbres personnages ont leur nom inspiré de symboles mathématiques ?» Ce sont des personnages fictifs.
Un petit indice, chercher 2 acolytes de bande dessinée.
Roger, Astérix et Obélix.
Ah. C'est exact. Est-ce que vous pourriez nous dire de quels symboles ils sont inspirés ?
Alors, l'astérisque et l'obèle, qui sont des symboles qu'on utilise en mathématiques, mais pas qu'en mathématiques d'ailleurs. Beaucoup de typographes les utilisent pour d'autres raisons, comme des bords en bas de page.
Question suivante. Si on a 23 personnes dans une pièce, quelle est la probabilité que 2 d'entre eux est le même, enfin 2 d'entre elles, vu que c'est des personnes, est la même date d'anniversaire.
Mathieu, 80%.
Faux.
Roger, alors je n'ai pas le courage de faire le calcul de tête, mais on doit être aux alentours de 50%. C'est une probabilité d'un demi, pardon. Si...
C'est exact, c'est assez étonnant, mais en réalité, un simple calcul permet de le montrer.
Roger, vous allez devoir affronter la colle de la mort puisque vous avez 20 points.
Je ne sais pas si c'est un privilège. le nom n'est pas très réjouissant a priori.
Oui, mais vous aurez la possibilité de donner un gage à la personne de votre choix.
Nous arrivons bientôt à la fin de notre émission. Mais comment parler des exploits des femmes en sciences sans évoquer Mariam Mirzakhani, la seule à avoir obtenu la plus grande récompense mathématique jusqu'à nos jours?
C'était une mathématicienne iranienne du XXe siècle. Elle est principalement connue comme étant actuellement la première et seule femme à avoir obtenu la médaille Fields en 2014, une des deux plus prestigieuses récompenses en mathématiques qui est considérée comme l'équivalent d'un prix Nobel. Comme la médaille Fields existe depuis 1936, Mariam Mirzakhani est donc la seule femme en 85 ans à l'avoir obtenue. Son parcours a été plus que prestigieux, bien que court. Dites-vous qu'à l'âge d'être aujourd'hui en première, 17 ans, elle était déjà lauréate des Olympiades internationales de mathématiques de Hong Kong, puis ceux de Toronto, un an après avoir obtenu un score parfait. Ses recherches partèrent principalement sur la géométrie hyperbolique, qui est une des branches des mathématiques qui permet de mieux comprendre les surfaces courbées. Mariam Mirzakhani est morte très récemment, en 2017 à 40 ans, à cause d'un cancer du sein, et de nombreuses personnes lui ont rendu un hommage en la présentant comme un symbole de la grande volonté des femmes et des jeunes Iraniens sur la voie pour atteindre les sommets de la gloire. Selon elle, « You have to spend some energy and effort to see the beauty of math. »
Je ne suis pas expert en anglais, donc est-ce que tu peux traduire ?
Vous devez dépenser de l'énergie et des efforts pour voir la beauté des maths.
Notre émission touche à sa fin. Ce fut un plaisir de travailler toute l'année sur ce thème.
Nous espérons qu'à notre petit niveau, nous avons contribué à faire évoluer l'équilibre entre les filles et les garçons, dans les mathématiques et dans les sciences en général.
Nous tenons à remercier tous les intervenants pour leur disponibilité, ainsi que Fabien Touchard pour tout le montage audio.
Pour finir en beauté et faire taire le suspense, voici la finale de notre quiz.
Donc Roger, je vais vous poser dans l'ordre une série de 10 questions. Vous gardez la réponse dans votre tête une fois que vous l'aurez trouvée. Et vous devrez me redonner ces 10 questions dans le même ordre.
Les 10 réponses.
10 réponses, oui, pardon. Alors, donnez le nom d'un mathématicien qui a donné son nom à un théorème sur les triangles rectangles. Quelle est la quatrième décimale de pi ? Si je vous dis côté opposé sur côté adjacent, vous me dites ? Donnez la valeur d'un angle d'un triangle équilatéral. Donnez un chiffre qui n'est pas pair. Anatole regarde vers l'ouest. De combien de degrés doit-il se tourner pour admirer le lever du soleil ? Donnez le nom de la droite qui coupe perpendiculairement et en son milieu un segment. Si deux droites sont perpendiculaires à une même droite, alors elles sont... Des axiomes d'Euclide, il y en a combien déjà ? En allant à la gare, vous croisez 10 femmes accompagnées de leurs conjoints. Combien de personnes vont à la gare ? Ok. Êtes-vous prêts ?
Donc on commençait avec Pythagore. Ensuite, on disait 5. Ensuite, on disait sinus. Ensuite, on disait 5.
Non.
On disait pi sur 3 ?
60
degrés, pardon.
Oui.
On disait 5. Toujours pas. Il y a des gens qui me font des gestes. À chaque fois, j'essaye de répondre. Tout ça pour me déconcentrer. On sent les gens qui ne veulent pas avoir de gage. Là. J'ai tout perdu entre temps. Il y avait Anatole avec ses 180 degrés.
Oui.
Je ne sais plus dans quel sens on avait les axiomes d'Euclide, la médiatrice et les droites parallèles. Donc je vais les dire dans le désordre. Je vais dire médiatrice, cinq axiomes, les deux droites parallèles, les cinq axiomes d'Euclide.
Oui.
Et les 20 personnes qui vont à la gare si on suppose que c'est des couples hétérosexuels.
Nous allons à la gare et eux en reviennent. Donc en fait, il n'y a qu'une personne qui se rend à la gare.
Et vous avez également dit sinus pour côté opposé sur adjacent alors que c'était
tangente.
Mais sinon, vous avez tout dit.
Ah là là.
Bravo.
Bravo Roger pour la performance. Toutes nos félicitations. Merci à vous deux de vous être prêtés au jeu et merci pour votre bonne humeur et les petits traits d'humour. Merci encore à Laura, Laurette et Antoine pour tout le travail en amont et pour avoir sauté le pas de se lancer derrière un micro face à deux profs de maths en plus. En plus, il fallait les appeler par leur prénom. C'était pas évident. Merci à tous et à bientôt.